Bonsoir, les images sont fortes, hein. Les gens du voyage qui saccagent la petite ville de Moirans dans l'Isère. Hier, c'est François Hollande qui était sifflé une nouvelle fois, hué lors d'un déplacement. Et puis, il y a deux semaines, les violences chez Air France. Et puis, il y a tout ce dont on ne parle plus ou pas, donc au quotidien, ces agriculteurs exsangues, ces patrons de PME, étranglés par la fiscalité, étranglés par la réglementation. Alors, la violence couvre-t-elle? De quoi s'agit-il? Jusqu'où ira-t-elle cette violence? S'agit-il d'une révolte? Voici les décodeurs de l'écho.
L'écho s'éclaire sur BFM Business. Fabrice Lundy reçoit les décodeurs de l'écho.
Alors deux sujets comme tous les soirs dans les décodeurs de l'écho, donc du sérieux hein, jusqu'à 20h et puis un petit peu plus léger, mais en même temps ça représente un énorme potentiel, un énorme secteur économique, la French Tech. Les objets connectés de la French Tech qui vont être mis en avant dans les grandes enseignes de la distribution. On sera là avec l'un des dirigeants de Boulanger tout à l'heure et puis bien sûr Frédéric Simotel. Nos décodeurs de l'écho pour essayer de comprendre ce qui se passe, cette violence hein, qui est en train de couver justement, jusqu'où ira-t-elle? On est avec Patrick Liebus qui est président de la CAPEB, c'est-à-dire les artisans du bâtiment. Il est vice-président de l'Union des professionnels de l'artisanat, l'UPR. Un juge en exercice, Charles Prasse, que vous connaissez, que vous adorez, qui vient souvent vous voir dans les décodeurs de l'écho. Pascal Pic, il est paléon anthropologue au Collège de France. Il publie Le retour de Madame Néandertal. Comment être sapiens? C'est une fable, c'est un conte. Véronique Jérôme, politoéconomiste chez Election Scope. Et puis Bertrand Martineau, économiste, auteur de John Law, le magicien de la dette. Alors, ce soir, situation toujours très tendue à Moirans. Donc, on est à quelques dizaines de kilomètres de Grenoble, dans le département de l'Isère. Après de nouveaux refus de la justice, eh bien, de libérer un jeune détenu multirécidiviste pour assister aux obsèques de son frère. Hein, ce qui avait entraîné, vous le savez, hier soir, eh bien, des saccages, des bagarres, des incendies dans toute la ville. Et on ne parlait que de ça cet après-midi à l'Assemblée nationale lors des questions au gouvernement. Reportage sur place, Jean-Baptiste Huet.
Grosse ambiance aujourd'hui dans l'hémicycle. Gauche et droite se sont opposés après les violences survenues hier dans l'Isère à Moirans. Répondant à une question d'un député, Manuel Valls a été très ferme. Les auteurs de ces faits seront implacablement recherchés et poursuivis en justice. Le Premier ministre donne ainsi le ton. Pas question de céder. Dans les couloirs de l'Assemblée, la tonalité générale, c'est bien sûr l'indignation, mais pour autant, certains refusent de céder au catastrophisme. C'est le cas par exemple du député Les Républicains, Hervé Mariton.
Il y a des problèmes graves d'ordre public qui doivent être traités et mieux traités qu'ils ne le sont aujourd'hui. Moirans est un exemple patent où la direction des forces de l'ordre, leur capacité d'action, leur efficacité auraient dû être au rendez-vous, elles ne l'ont pas été. Il y a un problème à la fois de mise en œuvre, peut-être, et surtout de décision politique et de responsabilité politique. Je ne veux pas pour autant généraliser, globaliser. Tout ça ne doit pas être résumé dans une analyse quasi insurrectionnelle.
Pour le Front National et le député Gilbert Collin, la situation était tout à fait prévisible.
Rappelez-vous, quand l'autoroute a été saccagée par les gens du voyage pour obtenir une permission de sortir, elle a été accordée. Quand on crée une jurisprudence de la lâcheté, faut pas s'étonner si les gens tentent une seconde fois le coup.
Nicolas Dupont-Aignan de Debout la France préfère mettre l'accent sur le désespoir économique.
Parce qu'on ne peut pas être en croissance lente ou à croissance zéro pendant des années et parallèlement une faiblesse judiciaire qui ne punit jamais les actes graves. Alors quand d'un côté il y a la désespérance et de l'autre il y a le laxisme, ça peut produire de graves dangers, c'est tout.
Le député MoDem Jean Lassalle s'est fait connaître en parcourant la France à pied. Il était allé à la rencontre des Français et aujourd'hui son constat est amer.
La France est un pays qui a peur et qui n'a plus confiance en rien ni en personne. Et le lien social, humain, entre humains est gravement disloqué. Il y a une partie de nos concitoyens qui sont résignés. Alors eux, c'est vraiment la résignation, c'est le sentiment ultime, hélas, et une partie importante qui sont révoltés.
Voilà, une partie se dit révoltée. Donc Jean Lassalle, député MoDem des Pyrénées-Atlantiques avec Jean-Baptiste Huet cet après-midi à l'Assemblée nationale. De quoi parle-t-on exactement, Véronique Jérôme? Vous êtes politoéconomiste chez Election Scope. On parle de colère, de révolte, de révolution?
Alors, révolution, pas encore. De colère, très certainement. Il semblerait quand même qu'il y ait une crise de défiance. Donc, on n'a plus confiance dans les institutions. Le régalien semble montrer des signes d'inefficacité. Et ça, c'est véritablement dramatique. On n'a plus confiance. Et on peut prendre les exemples à la fois dans les syndicats, parce que finalement, on a vu la base déborder les dirigeants syndicaux Air France. On n'a plus confiance dans les institutions, parce que finalement, on remet en cause assez facilement des décisions de justice. On n'a plus confiance dans l'exécutif. Là, on le voit avec une popularité qui est quand même au plus bas. Et donc, cette crise de confiance atteste peut-être une crise de gouvernance. Et j'ai l'impression qu'on va vers une certaine, pour prendre le mot à la mode, vers une certaine ubérisation. Finalement, la foule, d'une certaine façon, parce que là, on a manipulé, on fait des effets d'annonce et on n'a pas de résultats. Quand on voit François Hollande hier, les gens de la Courneuve disent, finalement, on a voté pour lui, on avait confiance.
On va revoir ce qui s'est passé, réentendre ce qui s'est passé. Vous avez raison, c'était hier, au moment où François Hollande faisait un déplacement à la Courneuve pour en faveur de la banlieue. On voit ce qui s'est passé hier après-midi. Oui, Véronique Jérôme, on le voit, cette défiance vis-à-vis des institutions, François Hollande qui est de plus en plus sifflé, hué, et on se souvient lors de sa visite à Saint-Nazaire la semaine dernière, quand un représentant de la CGT avait refusé de lui serrer la main.
Donc là, il y a un manque de respect. Les actes attestent de ce manque de respect, de ce manque de confiance. Et puis finalement, certains disent aussi, on a voté pour lui. À la Courneuve, le taux d'adhésion à François Hollande était très important. On a voté pour lui en 2012. Là, la rue commence à revendiquer. Donc on a ce qu'on appelle loyalty, enfin c'est exit vote loyalty. C'est Hirschman en 1970 qui a donné ces éléments. On adhère, donc la loyauté de l'adhésion. Quand on ne peut plus adhérer, on peut éventuellement revendiquer, ce que fait la rue actuellement. Et ce qu'on pourra peut-être voir à l'avenir, c'est exit, c'est-à-dire on n'adhère plus, on s'abstient, on sort du marché.
Et alors, les images qui s'accumulent, on a revu donc ce qui s'est passé hier à la Courneuve. Vous avez cité Air France une nouvelle fois, Véronique Jérôme. Il y a les violences à Moirans, donc des choses extrêmement différentes, bien entendu. On pourrait parler aussi des policiers qui ont manifesté pour la première fois en 30 ans sous les fenêtres de la garde des Sceaux, donc c'était Christiane Taubira la semaine dernière, les commerçants, les artisans matraqués fiscalement, les chômeurs, les salariés qui perdent leur emploi. Qu'est-ce que ça traduit, Pascal Pic, à vos yeux ?
On a, sur certains aspects, des changements anthropologiques profonds du rapport à la société et à ce qui était la possibilité d'un avenir digne en ayant un travail ou autre. Alors, c'est une étude américaine que j'ai vue récemment qui est très troublante parce que par-delà l'ubérisation, comme on vient de le citer, il y a beaucoup de métiers aujourd'hui qui sont très impactés, notamment des métiers qui sont liés autour de la conduite des engins. Et là, je vais vous surprendre, c'est pas de la sociologie, c'est vraiment de l'anthropologie. Nous sommes encore dans une civilisation qui met l'accent sur le rôle des hommes, les mâles, dans le rapport à la technique, notamment à la conduite des engins, notamment dans les transports, c'est tout à fait clair. Et le résultat actuellement est tel que pendant longtemps, ça ne posait pas de difficultés, puisque les filles avaient des métiers moins qualifiés et elles avaient en général moins d'études derrière elles. Aujourd'hui, c'est complètement en train de changer. Et pour vous dire le traumatisme, aux États-Unis, on a de plus en plus de jeunes hommes qui sont encore sur le modèle États-Unis et même Québec, c'est pareil, hein, toute l'Amérique du Nord, et ça va arriver chez nous, ça commence. Ils sont sur ce modèle qui, effectivement, je peux assurer dignement ma vie en travaillant dur. Il y avait en culture les camionneurs, les bûcherons, etc. Et alors, donc, ils sortent plutôt du système scolaire, parce qu'ils avaient un emploi quasiment garanti, en tout cas plus facile à atteindre. Et derrière cela, pendant ce temps, ben, les jeunes femmes ont accumulé plus de diplômes. Et vous voyez la contradiction majeure qui est en train de se mettre en place. Il y avait dans l'anthropologie toute une image, notamment en préhistoire, dans mon domaine, de l'homme, c'est l'outil. Et l'homme, c'est l'outil, c'était traduit, l'homme, c'est le mal. Et donc ça, c'est très profond. Je ne veux pas aller trop loin là-dessus, mais derrière cela, le vrai paradoxe, c'est que eux-mêmes voient leur métier pris par les techniques. C'est-à-dire, on voit les machines intelligentes, les robots, on voit bien aujourd'hui des pilotes de chasse et les drones, voilà. Et ça, c'est déjà bien affirmé.
Donc, ce que vous voulez, pour et résumer, de là, ce que vous essayez d'expliquer, oui, c'est ce qui se passe en ce moment, cette colère qui pointe, oui, c'est à cause des machines.
C'est pas qu'à cause des machines, c'est tout un rapport anthropologique à la société qui est en train de bouger. Je pense qu'on a quelqu'un dans la Fédération du bâtiment, la
Fédération,
là, les exosquelettes arrivent, etc. Tous ces métiers sont en train de changer. C'est pas que l'ubérisation, il y a aussi les robots, les machines. Et du coup, derrière cela, que se passe-t-il? Ce sont pas les femmes qui prennent les métiers des hommes, comme le disent certains. Les femmes ayant plus de diplômes accèdent à des métiers auxquels même ces hommes ne peuvent pas venir. Donc, on a un rapport fondamental du rapport à l'homme, le mâle, par rapport à la société qui a été multiséculaire. Donc ça, effectivement, s'il n'y a pas d'espoir, ça entraîne des violences.
Et tout ça, ça bouleverse.
Donc voilà, on a des... Oui. C'est pas qu'économique et sociologique, c'est aussi anthropologique.
Juste d'un mot avant d'entendre les autres décodeurs de l'écho. Lorsque vous parlez d'ubérisation, vous faites allusion à quoi, Véronique Jérôme?
J'ai l'impression que finalement, ce sont les foules, c'est la rue qui va se saisir de ces services, de donner des réponses. Et si ça se passe bien, espérons-le que ça se passe bien, ça signifie qu'il y aura une certaine, ce qu'on appelle wisdom of crowd, la sagesse des foules, qui va peut-être aller vers le chemin de la sagesse, qui va aller vers... il y avait un Nobel d'économie, la seule femme Nobel d'économie, je peux me permettre de la citer, Elinor Ostrom, Nobel 2009, qui a dit ni le marché ni l'État, et entre les deux un comportement citoyen qui serait peut-être là la phase ultime et attendue.
Le juge Charles Prats est avec nous. Charles Prats, vous êtes sur le terrain, bien sûr, vous voyez ce qui se passe. Vous instruisez, vous réprimez, bien sûr, c'est votre boulot de magistrat. Est-ce que vous notez une accumulation donc de ces violences depuis quelques semaines? Quels que soient les endroits, j'ai cité des choses extrêmement différentes. Hein.
Non. Alors, je vais refaire un peu de théorie. J'invite les auditeurs à se procurer, il est peu disponible, c'est un vieux livre qui a été écrit par Roger Mukeli en 1972 qui s'appelait La Subversion. Alors, j'en ai fait un peu une exagèse il y a quelques années dans un autre bouquin qui s'appelait La Guerre Cognitive. On assiste à quoi? On est en France. La France est un pays qui a une culture de la pratique politique ancienne, très importante, et notamment de la pratique des mouvements d'extrême gauche ou d'extrême droite. Il faut avoir conscience que du temps du Bloc de l'Est, de l'URSS, le Comintern avait une politique de déstabilisation des pays occidentaux et de subversion interne en utilisant des mouvements d'extrême gauche. Et donc tout ça...
Dans les années 70.
Voilà, tout ça a été mis en œuvre dans les années 60 et 70. Et avec la chute du mur de Berlin en 1989 et l'effondrement du communisme, vous avez tout un tas de praticiens de la politique, de l'agitation propagande et de la subversion qui sont trouvés orphelins d'idéologie, mais les pratiques ont subsisté, notamment dans le monde syndical. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? On a simplement... la continuation de l'action politique dans ce type d'opération, sauf que la société a évolué en termes de communication. Ce que j'ai déjà dit, c'est que la communication mainstream descendante, elle est morte. Maintenant, tout est atomisé et ça va très très vite. Donc, ce que vous voyez aujourd'hui, c'est non seulement une réalité violente, mais c'est surtout une perception de la réalité que l'on n'avait pas il y a 20 ou 30 ans, parce qu'aujourd'hui, dès qu'il y a un point de fixation et un problème, ça se voit tout de suite sur BFM TV, sur les chaînes info, etc., à la radio, sur Internet, ça va très très très
vite. Donc il n'y a pas plus, pas moins, donc...
Pas plus, pas moins. La France est un pays où la violence politique, la violence d'action syndicale, c'est une tradition. On a connu des situations beaucoup plus violentes antérieurement. Donc là, la seule chose, c'est qu'on se rend compte... C'est l'effet d'entraînement, si vous voulez. Ce qui se passe, c'est que c'est de la subversion. Vous créez des incidents exploitables. Effectivement... Et on challenge l'autorité de l'État. L'État ne répond pas forcément toujours. Ouais. Et on crée des exemples. Et derrière, on démontre que l'autorité de l'État s'affaiblit. Et donc, on rentre dans ce que j'appelle le cycle du discrédit. Et ça va faire rentrer dans le système des hitchhikers qui vont se dire, bah, tiens, pourquoi pas moi, etc. Et donc, vous avez l'effet d'entraînement. Voilà, c'est de la pratique subversive classique. Et sauf que la question, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'objectif ultime à cette subversion qui était le fait de faire tomber le fruit politique. C'est aujourd'hui, c'est de la subversion pour la subversion. Quoi.
Et on s'entraîne. Et au moment où on se parle, là, fin octobre 2015, on est 10 ans pile après les émeutes donc de
2005.
De 2005, bien sûr. On cherchait le nom de la ville de Seine-Saint-Denis où il y a eu ces deux jeunes qui s'étaient électrocutés donc dans un transformateur. Et en effet, on a vu l'effet d'entraînement. Une cité mettait le feu, une autre voulait faire mieux, etc. Et puis ça avait duré, c'était à Clichy, bien sûr. Clichy-sous-Bois, dans le département de Seine-Saint-Denis. Bertrand Martineau, justement, faisons le point, parce que le juge Charles Prats nous dit... Il n'y a pas plus, pas moins qu'avant. Simplement, on en parle plus. Quid de la conflictualité? Parce que c'est vrai, donc, ce que disait François Hollande avant-hier, le conflit Air France ne résume pas l'état de la France. Il n'y a pas plus de conflits, pas plus de violence dans les entreprises qu'autrefois?
Alors, d'un point de vue statistique, on est à un niveau historiquement le plus faible en termes de conflits, c'est-à-dire nombre de jours de grève. Et si on retire la SNCF, alors on est à vraiment un des pays les moins conflictuels de l'OCDE. Voilà, c'est les seules statistiques qu'on ait, et voilà. Mais ça ne veut pas dire que le monde, y compris professionnel, n'est pas violent. Mais ça se matérialise par d'autres choses. Donc je suis pas sûr qu'il y ait plus de violence qu'autrefois. Ça ferait bien rigoler au passage nos ancêtres, y compris les syndicalistes ou les hommes politiques. Enfin, la violence politique dans les années 30 était quelque chose d'hallucinant, à tous les niveaux, y compris à l'université, etc. Mais ce qui me frappe aujourd'hui, c'est le fait que la violence est totalement diffusée, individualisée. Elle se traduit, par exemple, dans les entreprises, non pas par des conflits, mais par des stratégies que rappelait d'ailleurs ma collègue Exit, c'est-à-dire les troubles psychosociaux, l'absentéisme, l'explosion des maladies professionnelles, alors même que, objectivement, jamais dans l'histoire de l'humanité, le travail a été plus sûr d'un point de vue de la santé.
Et qu'on a été aussi bien soigné, voilà.
Exactement. Ouais, mais ça se traduit par ce genre de choses un peu partout et diffuses. Et la deuxième chose qui me frappe, c'est le problème de la régulation. Parce que, finalement, la violence, elle a toujours existé. C'est un fait de nos sociétés. Elle n'est pas particulièrement forte aujourd'hui. Mais c'est la régulation qui ne va pas. La régulation par l'élection politique pose problème. Il y a un problème de désaffiliation au niveau politique. La régulation par l'action syndicale, par la grève, maîtrisée par des organisations syndicales responsables, ça ne fonctionne pas non plus.
Non.
Témoin, le faible taux de conflictualité. Puis le troisième mode de régulation, en tout cas, dans ce que je connais bien, c'est-à-dire la partie droit du travail, c'est le droit. Mais le droit, on lui en demande sans doute un peu trop. C'est-à-dire que le droit du travail ne va pas résoudre les questions de sens, les questions de perte de sens, les questions de malaise au travail, les questions de harcèlement. C'est des choses que le droit a du mal à saisir. Donc on se fait des illusions en pensant que la judiciarisation systématique de toutes les relations de travail, en particulier les relations individuelles, va être résolue par le droit. Donc on a un problème gigantesque de régulation de la violence.
Et on verra justement comment endiguer cette violence. Alors, l'homme du terrain, Patrick Liebus, donc à la tête d'une entreprise, rappelez-nous, c'est de la...
Je fais de la
couvreur. Vous êtes là, voilà, c'est exactement, et vous êtes président de la CAPEB. On a dit déjà beaucoup de choses. Vous, sur le terrain, qu'est-ce que vous observez, justement, en tant que chef d'entreprise, au milieu d'autres chefs d'entreprise, et puis en tant que chef d'entreprise vis-à-vis de vos salariés? Ça remue, ça bruisse ou pas?
Il y a un bruissement qui se fait de plus en plus important. Alors, le rôle d'une organisation comme la mienne, comme la CAPEB, c'est d'éviter que ces bruissements se transforment en des mouvements incontrôlables. Quand on en arrive à ces situations, moi je suis très inquiet, ça fait très très longtemps que je fais du syndicalisme, on voit ces mouvements partir d'artisans qui en général n'ont jamais ce type de rechercher des conflits, c'est pas le genre. Alors ils vivent aussi dans l'entreprise, et on le vit dans nos entreprises, la pression de nos salariés. Les salariés vivent des choses moins faciles, ils ont leur entourage est beaucoup plus difficile, ils sont touchés par le chômage, pas eux-mêmes, mais touchés par le chômage dans leur famille, donc ils deviennent réactifs. Et cette réaction, ils en font part à l'artisan qui travaille avec eux, parce qu'il est sur les chantiers, ben moi c'est le cas, et quand on travaille ensemble, on entend des choses qu'on n'avait pas l'habitude d'entendre. Des exaspérations du côté des salariés. Alors, les syndicats salariés dans le bâtiment sont peu représentatifs, mais ils sont présents quand même. Ça amène pas des mouvements, mais ça amène à une pression qui est collée sur le dos des chefs d'entreprise de l'artisanat, et c'est difficile.
Pression, exaspération, qui se traduit par comment, Patrick Liebus?
Ça se traduit par des réunions comme celle que je tiens là depuis 2 jours avec 200 artisans qui viennent de toute la France, ouais, qui sont les responsables dans les départements et qui m'expliquent que si on prend pas certaines mesures rapidement, les artisans vont prendre des décisions eux-mêmes de créer des mouvements qui
de la violence, y compris
de la violence du mouvement. Alors moi,
ce qui s'est passé à Moirans, par exemple, bon, avec les gens du voyage qui sont mis à incendier la ville, à brûler des voitures, etc. Est-ce que parfois vous en avez envie, enfin peut-être pas vous personnellement, mais les artisans, vous en avez envie de ce genre d'action ou pas?
Ils n'ont pas envie de ce genre d'action, parce que l'artisanat, c'est fait pour construire, c'est pas fait pour détruire.
Voilà.
Donc, les actions qu'ils me demandent, et ça, ils sont assez concrets, ils me demandent de faire ce que l'on fait, faire du lobby un maximum, d'être présent dans tous les ministères, au plus haut niveau de l'État, puis d'expliquer l'exaspération. Et de temps en temps, on l'a déjà fait, on crée un mouvement, on a fait une manifestation, 20 000 artisans dans les rues, sauf que les consignes étaient claires. Respectez les personnes que vous croisez, expliquez pourquoi vous le faites, et vous repartirez, on sera plus 20 000 pour revendiquer, mais on sera, y compris les personnes que l'on a croisées. C'est ce principe-là. Mais à force, au bout d'un moment, arriver à les tenir, je peux vous dire que dans le bâtiment, c'est assez revendicatif. Les gars, ils savent bien dire ce qu'ils ont à dire. Il y a de plus en plus de femmes, d'ailleurs, dans le bâtiment. C'est de plus en plus utilisé. Les femmes travaillent dans le bâtiment. Ça nous a d'ailleurs simplifié la vie. Très, très clairement, l'entrée des femmes, eh bien, elles-mêmes, ils nous disent maintenant, on peut plus. Puis il faut pas oublier que dans l'entreprise artisanale, il y a les conjointes très souvent qui gèrent l'entreprise et qui disent maintenant, cette fois, c'est intolérable, les charges sont trop lourdes sur nous, il faut que tu réagisses, toi, chef d'entreprise artisanale, tu dois réagir par rapport à ça.
Oui, le timing, on expliquait la semaine dernière, c'est Mathieu Jolivet qui l'expliquait sur BFM Business avec Emmanuel Le Chypre. Hein. Dans l'histoire récente, après chaque pic de récession, 89, 95, 2003, il y a eu 3 ans plus tard, à chaque début de reprise, un pic de contestation avec une explication d'ordre psychologique. On va y revenir avec vous, Véronique Jérôme, Bertrand Martineau. En plein cœur de la crise, la peur l'emporte sur la colère, mais dès qu'on voit le bout du tunnel, c'est la colère qui s'exprime. On est dans ce timing, Véronique Jérôme ?
Alors, on a regardé les taux de criminalité. Si on prend toute criminalité confondue, quand on regarde la violence, la criminalité pour 1000 habitants, si on prend sur longue période, sur 1981-2013, on s'aperçoit qu'il y a une corrélation très forte avec le chômage. De toute façon, la violence s'exprime quand la situation économique est dégradée. Et si on veut regarder un petit peu avec l'idéologie cette fois-ci, on s'aperçoit que la gauche a toujours à pâtir d'une montée de la criminalité. Elle est toujours finalement préjudiciable à la gauche. Ça a été le cas pour François Mitterrand en 88-93 avec les législatives de 93, ça a été aussi le cas de Lionel Jospin en cohabitation en 97-2002. S'agissant de la droite, on note que la courbe est toujours à la décrue de la criminalité, mais là avec des fortunes diverses, parce que finalement, si on voulait faire un lien avec les élections, on s'aperçoit que à trois occasions, la présidentielle de 88, la présidentielle de 2012 et les législatives de 97 se sont traduits par un échec de la droite, une défaite, et par contre, la présidentielle de 95 et la présidentielle de 2007 s'est traduit par une victoire de la droite.
Et de quelle criminalité parle-t-on ? Parce que là, on parle de...
Toute criminalité confondue. Si on prend un indicateur global pour essayer d'avoir donc les criminalités, les vols et les choses sur les enfants, enfin, toute autre criminalité.
Oui, d'accord. Là, on est d'abord sujet par rapport à ce dont on parle ce soir, où on parle
plus... une violence qui peut s'exacerber. Enfin, bon, on prend l'indicateur qu'on trouve, parce que sur les jours de grève, sur la conflictualité, les données depuis 2013, on ne les a pas, ne sont pas publiées. On a un peu de mal à cerner les choses, et on s'aperçoit quand même que si on met les courbes en projection du calendrier électoral, on a quand même quelque chose qui permettrait de dire que pour les électeurs, il est normal que la droite ait une action dans ce champ et apparemment, la gauche ne parvient pas à donner une efficacité. Par contre, le Front National, lui, s'il monte depuis 2007, c'est parce qu'on a une situation économique qui se dégrade, sur le plan du chômage notamment, et que finalement, c'est par le biais de la situation économique qu'on retrouve cette conflictualité.
On verra d'ailleurs les conséquences, justement, de cette violence, alors plus ou moins affirmée. Charles Prats, magistrat.
Oui, juste pour rebondir, évidemment, il y a une corrélation très forte entre le niveau social de la personne et le fait qu'elle soit délinquante ou pas. Donc ça, c'est un truisme. Cela étant, il ne faut pas non plus assimiler une problématique de revendication sociale, de revendication syndicale avec de la criminalité ou de la délinquance. On n'est pas du tout.
C'est
du
pour
tout.
Ça que j'essayais de faire préciser justement à Véronique Jérôme ce qu'elle essaie.
Cela étant,
qu'elle essaie d'expliquer par criminalité.
Voilà, la comparaison avec ce qui s'est passé il y a 15 ans, vous parliez de Lionel Jospin tout à l'heure, elle est flagrante. Il se trouve qu'à l'époque, moi j'étais secrétaire général d'une fédération de fonctionnaires, et donc les conflits sociaux de 2001-2002, je les ai vécus de très près. Et vous remarquerez, ça c'est intéressant, ce qui est en train de se passer aujourd'hui, c'est exactement ce qui s'est passé en 2001-2002. C'est-à-dire qu'on est face à un gouvernement qui là est un gouvernement de gauche et qui est en train de se couper de son électorat naturel. Et vous reprenez les élections. En fait, Chirac perd 1988. Pourquoi ? Parce que la droite se coupe d'une partie de son électorat naturel, notamment les médecins à l'époque, parce que Philippe Séguin commet l'erreur de braquer le monde médical. Résultat, défaite en 1988. Donc en 2002, qu'est-ce qui se passe ? Alors, déjà sur les élections régionales de 1998, la droite les perd à l'époque parce qu'elle se coupe des buralistes, qui sont des relais d'opinion et qui est a priori un de ses électorats naturels. Elle perd les élections régionales. Que fait Lionel Jospin en 2001 ? En 2001, il y a deux choses. En fait, Lionel Jospin, il perd les élections présidentielles de 2002, il les perd le 25 août 2001. Le jour où il impose à son électorat naturel, qui sont les fonctionnaires, la réforme des 35 heures sans négociation, donc au forceps, et où dans le même temps, le ministre de la fonction publique de l'époque rompt les négociations salariales. Donc ça, on est en 2001, et derrière, qu'est-ce qui se passe ? L'électorat naturel va se disperser. Et aujourd'hui, on assiste exactement à la même chose. Vous voyez donc à la télévision, dans les médias, etc., un conflit majeur entre les organisations syndicales et le gouvernement. Donc il y a une rupture entre les syndicats et le gouvernement. Et dans le même temps, on a eu aussi de nouveau la rupture des négociations salariales. Donc même cause, mêmes effets. Vous allez avoir une réaction qui va être une réaction politique. Moi, je ne crois pas une réaction de révolution, une réaction violente dans la société. Je pense que la réaction va se faire dans les urnes, avec une sanction électorale très forte, même cause, mêmes effets, comme il y a 15 ans, et éventuellement une poussée du Front National, parce qu'il y a d'autres constantes politiques qui sont en train de monter. Et le résultat, vous l'aurez déjà en décembre et puis en 2017.
Un mot, Véronique Jérôme, et puis on revient dans un instant.
Rapidement. Enfin,
vous êtes d'accord ce qu'il dit?
Je suis en partie d'accord parce que le chômage est une des variables explicatives des élections. C'est pas tout. On ne peut pas mettre simplement une variable face à un résultat électoral, mais il y a une composante qui est là. Et Lionel Jospin aurait pu gagner 6 mois avant parce que la courbe du chômage donnait une bonne tendance. 6 mois après, bon. Retournement de la courbe du chômage. Et là, on a aussi une explication.
Allez, la révolte couve-t-elle en France? On va revenir dans un instant avec Bertrand Martino, Pascal Pic, Véronique Jérôme, Charles Prats et Patrick Liébus, les décodeurs de l'écho ce mercredi soir. À tout de suite. Bonne soirée.
L'écho s'éclaire sur BFM Business. Fabrice Lundy reçoit les décodeurs de l'écho.
Bon, la révolte couve-t-elle en France, hein? C'est vrai qu'on avait commencé à aborder cette question au moment des événements d'Air France. Et puis on a vu le président de la République aussi siffler sur le terrain. Et puis donc, hier soir, les violences à Moirans, quand des gens du voyage ont saccagé la petite ville donc de 8000 habitants pour protester contre l'incarcération, en tout cas exactement le fait que eh bien un détenu récidiviste n'ait pas le droit d'avoir la permission d'aller enterrer un de ses frères. Et il y a eu des violences extrêmement dures qu'il faut réagir au plus haut niveau de l'État. Manuel Valls cet après-midi à l'Assemblée nationale, et puis le président de la République depuis l'Élysée aux environs de 17h.
Lorsqu'il se passe des actes graves qui touchent à la sécurité des biens et des personnes, l'État doit être là et ne tolérera aucune attaque, aucune remise en cause de ce qu'est l'ordre public et le bien public. Et les sanctions seront prononcées par la justice à la hauteur des dommages qui ont été causés. De la même manière, je n'accepte jamais qu'on puisse mettre en cause les forces de l'ordre. Quant à la décision de justice qui a été prise, de ne pas donner une permission de sortie, je n'ai pas à la commenter, mais elle m'est apparue particulièrement opportune.
Bon, il ne veut pas la commenter, mais il la commande quand même, le président de la République. Voilà donc cette décision du magistrat, en tout cas de la cour d'appel de Chambéry, finalement, d'interdire la sortie donc de ce détenu pour participer aux obsèques qui ont eu lieu donc cet après-midi. Pascal Pic est avec nous, auteur du Retour de Madame Néandertal. Il est paléo-anthropologue au Collège de France. Toujours les raisons pour expliquer ce qui se passe quand même. On est loin de cette concorde, de cette unité nationale du 11 janvier. Il y a de plus en plus de replis sur soi. On entendait tout à l'heure le député Jean Lassalle dire « La France n'a plus confiance, il y a une sorte de résignation ». C'est quoi alors ?
Je crois que c'est plus compliqué que cela, de mon point de vue. Donc, en fait, ce livre est un essai qui essaye d'évoquer une femme de Néandertal qui est clonée, qui est bien éduquée et qui vient voir l'état du monde. Donc, vous savez, c'est un peu les lettres persanes, vous l'avez un peu suggéré. Et on est en train de changer vraiment de civilisation, il faut bien comprendre cela. Et ce qui a été dit de la part des personnes qui sont autour de moi est très intéressant à travers la série des élections et les décisions qui avaient été prises ou pas. Aujourd'hui, ce qui est très compliqué, lorsqu'on parle du chômage, c'est que on voit bien que le spectre des métiers est en train de se déplacer, nous avons des changements absolument considérables d'un point de vue sociologique et anthropologique, c'est-à-dire du rapport entre les hommes, les femmes, les machines. Ça, c'est de l'anthropologie. Et ça, c'est en train de changer. Et un des intervenants disait, le monsieur que vous avez cité, pardonnez-moi, disait, la France se désespère. Oui, mais à côté, vous voyez quand même une effervescence dans la création de start-up, de petites entreprises, etc. Ça veut dire quoi? C'est pas l'ensemble de la France qui désespère, mais il y a une partie de la France qui ne sait plus dans quel monde on va, dans lesquelles les gouvernances politiques aujourd'hui ne répondent pas bien, on l'a bien vu dans les témoignages que l'on a vus là. Et donc, le problème, c'est que personne ne peut vous dire, même l'anthropologue, où l'on va, on va pas n'importe où, et nous manquons de consensus. À partir du moment où on est dans cette période où il n'y a pas de grande idée qui transcende les différences entre les partis politiques ou les enjeux sociaux, les partenaires sociaux, à partir de là, tout le monde va défendre son précaré et on a un problème de gouvernance, me semble, qui est là. Claude Bichros parlait de consensus. Eh bien, de consentement. Eh bien, le consentement, on ne l'a plus. On en a qui se disent, on va entreprendre nous-mêmes notre vie, on va créer des entreprises et tout ce qui arrive actuellement, qui d'ailleurs est assez extraordinaire dans les nouvelles enjeux d'innovation qui se passent.
Et la French Tech qu'on mettra en avant à 20h dans la deuxième partie des décodeurs.
Et il y en a derrière cela qui se disent, quid de mes métiers, moi j'ai été formé pour ça, qu'est-ce qui arrive? Et donc à partir de là, il n'y a pas de vision et c'est désespérant. C'est pas se dire, je vais être 6 mois au chômage et j'ai trouvé un job. Il ne sait plus où ils vont.
Ouais, Pascal, Bertrand Martineau, on vient d'entendre Pascal Pic. Tout est en ébullition, tout est en mouvement donc dans le monde de l'entreprise que vous connaissez. Vous êtes économiste, vous connaissez bien les questions de l'emploi. Qui peut canaliser? Quelle peut être la solution? Comment faire face justement?
Le problème, c'est la faillite quand même des corps intermédiaires et des corps politiques constitués. C'est bien le problème. C'est encore une fois, c'est le problème de la. On n'arrive pas à réguler cette violence qui est un peu partout.
Les centrales syndicales ne contrôlent plus leur base comme. Patrick Lébus expliquait, il fait tous les efforts, lui, pour essayer de calmer un peu ses pairs des artisans.
Non seulement elles contrôlent pas leur base, mais elles ont très très peu de base. C'est-à-dire que, il y a 5% de syndiqués parmi les salariés. Bon, on pourrait dire qu'il y a 0,8% du corps électoral qui est adhérent à un parti politique, etc. La seule chose qui fait que tout ça ne s'agrège pas, c'est ce que disait Pascal Pic, on est sur le thème de la désespérance, de l'exaspération, de l'indignation, etc. On n'est pas sur le thème de la foule en fusion qui irait vers, comme dans les années 30, vers un objectif, parce qu'il n'y a pas de modèle extérieur. C'est-à-dire que dans les années 30, vous aviez les modèles fascistes et les modèles communistes qui pouvaient se prévaloir en apparence d'un certain nombre de succès, notamment sur le front économique et sur le front du chômage. Aujourd'hui, honnêtement, si les modèles, c'est l'extrême-gauche de Chavez, 120% d'inflation, un pays en ruine, c'est pas terrible. Syriza, qui est une sorte de pantalonnade assez grotesque. Bon, le modèle autoritaire de droite, Poutine, c'est aussi une catastrophe économique. Ben, voilà, il n'y a pas de grande lueur à l'Est ou à l'Ouest, etc., qui s'est levée. Donc, c'est ce qui fait que ça ne coagule pas. Donc, on est plutôt dans l'exaspération de la violence individuelle peu organisée. Donc, c'est très, très difficile de coaguler tout ça et également de le réguler, évidemment.
Alors, Véronique Jérôme, élection Scope, et juste après, Patrick Liebus, président de la CAPEB.
Je voulais juste faire référence au baromètre de la confiance politique que donne le Cevipof et qu'il a donné le dernier en février 2015, où on s'aperçoit que dans quelle organisation on a confiance? Eh bien, après, bien sûr, citer l'armée, les hôpitaux, la police. En cinquième position, les associations avec 70% de taux de confiance. Et n'arrive qu'en 13e position, les syndicats avec 29%. Et en 14e position, les partis politiques. Ça montre bien qu'il y a quand même un besoin et qu'il y a quand même vis-à-vis de ces organisations représentatives une décrépitude en quelque sorte. En même temps, quand on demande aux citoyens par quoi ils vont s'exprimer le mieux, eh bien s'exprimer dans la rue, c'est en deuxième position. Manifester dans la rue, ça vient juste après les élections et ça vient juste après les élections, alors que militer dans un parti politique, c'est en sixième position. Donc là, on voit bien qu'il y a quand même ce problème de confiance, il est fondamental. Et puis la colère qui monte, eh bien la colère qui monte, participe aux manifestations. Ils étaient 60% à dire qu'ils allaient participer aux manifestations en décembre 2014, en février 2015, c'est 66%. Et les statistiques, les sondages que font le Cevipof, c'est sur une dizaine de milliers de personnes. Donc c'est un sondage auquel on peut apporter une crédibilité.
Patrick Liebus, président de la CAPEB, c'était avant-hier lors de la conférence sociale. François Hollande vantait les vertus du dialogue social pour vivre dans une société apaisée. Ça va mieux en le disant, mais on n'y est pas dans cette société apaisée.
On a un peu de mal. Le dialogue social que j'ai connu il y a quelques années et celui que l'on vit actuellement, il y avait un peu de rigueur à l'époque, mais au moins, il y avait un sens de l'écoute. Maintenant, c'est un peu compliqué.
La faute à qui ?
Je pense qu'à force de montrer le modèle au niveau du politique, ceux qui sont dans le dialogue social se disent qu'ils pourraient utiliser les mêmes méthodes. Et ça, c'est une crainte terrible. C'est si on perd le rôle des organisations patronales ou salariales pour arriver à négocier, à équilibrer les choses, on va perdre énormément. Parce que ces modèles-là sont des modèles qui permettent de créer des stabilités, des équilibres. Je prends qu'un exemple. Le gouvernement prend une décision il y a quelque temps de dérégularisation de nos activités. C'est-à-dire tout le monde peut faire tout et n'importe quoi.
Donc les auto-entrepreneurs et
puis... Vous avez les auto-entrepreneurs, vous avez le problème des travailleurs détachés. À un moment donné, on dit aux entreprises, vous avez des objectifs à tenir, il faut absolument que vous teniez ces objectifs. COP21. Là, on arrive dans une période, tout est COP21. C'est bien. Moi, je pense à l'avenir et je pense à nos enfants. Mais à un moment donné, il ne faut pas nous demander d'atteindre des objectifs quand, de l'autre côté, on vous met des semelles de plomb pour pas que vous avanciez. Vous avez un problème de concurrence déloyale qui est permanente, qui s'amplifie. Alors, il se crée des animosités vis-à-vis de certaines personnes, alors qu'eux ne demandent qu'une chose, pouvoir travailler. Et de l'autre côté, on les met dans des situations, on les affaiblit. C'est-à-dire qu'on précarise une catégorie de nos concitoyens, voire de concitoyens européens. On les précarise pour donner soi-disant, entre parenthèses, de l'économie en France. Mais la vraie question, c'est demain, si les partenaires sociaux continuent pas de discuter, comment les systèmes de protection sociale en France vont fonctionner? Comment aura-t-on un système de sécurité sociale? Comment aura-t-on un système d'assurance chômage qui est un amortisseur de la crise? Comment on assurera l'avenir des jeunes? On ne sait pas. À chaque fois, quand on pose la question politique, en gros, mettez-vous autour de la table, ce qu'on a entendu, faites du dialogue social. Mais ce n'est pas le tout de faire du dialogue social. Derrière, il faut des lois qui appliquent ce qui a été négocié et surtout des décrets qui paraissent pour l'appliquer.
Oui. Le pouvoir, justement, la réponse du pouvoir, est-ce que parfois il n'y a pas trop de flou, de la déconnexion quand on vous entend tous, les uns et les autres? On a entendu tout de suite Charles Prats, le président de la République, dire voilà, des sanctions seront fortes, les sanctions seront efficaces, on va rechercher les coupables de Moiran. Très très bien, dont acte. Hein. Mais le président et la République, le gouvernement qui exprime donc la plus grande fermeté, mais au final l'absence d'interpellation à Moiran, le laisser faire sur l'autoroute A1 fin août, est-ce que ça montre pas quelque part à aller à un laxisme, à un abandon, à laisser aller, qui est pointé, qui est montré du doigt par l'opposition, peut-être à juste titre?
C'est exactement ce que je vous disais tout à l'heure. Techniquement, alors on va reprendre un petit peu ce qui s'est passé à Moiran. Techniquement,
sans faire l'histoire de Moiran,
sans faire l'histoire, mais techniquement,
c'est un exemple, il y en aura d'autres demain.
Face à plusieurs dizaines d'individus qui sont remontés très fortement d'une communauté dont on connaît la dangerosité.
La dangerosité, ils sont violents, ils ont des armes.
Voilà. procéder à des interpellations à chaud, ça peut être beaucoup plus problématique que de temporiser.
C'est ce qu'avait expliqué le gouvernement au moment de, du blocage de l'autoroute A1,
fin août. Mais bon, alors, en réalité, moi, pour, avoir,
si c'était convaincant,
mais moi, bon, pour voilà. avoir eu à gérer des interpellations en nombre, etc., on fait les choses, on les prépare, et intervenir à chaud, c'est jamais très facile. Donc, que les politiques soient dans leur rôle, en critiquant, en défendant, etc., c'est une chose, mais la réalité du terrain, ça reste la réalité du terrain. Après, dire qu'on va interpeller sur des usages de caméras vidéo quand tous les mecs étaient cagoulés, derrière, la réalité judiciaire, c'est que ce sera très difficile de démontrer
et très long,
qui a fait quoi et très long. Bon, ça, c'est une chose. Moi, déjà, je pense qu'il y a eu un gamin, parce que c'est un gamin qui est mort. Certes, il y a eu des critiques sur la mer, sur ce qui s'est passé, mais il faut d'abord penser qu'il y a eu un gamin qui est mort. Donc, on peut faire de la polémique politicienne, mais aujourd'hui, il y a un môme qui est à 6 pieds sous terre au cimetière. On peut comprendre la l'émotion de la famille, même si ça n'excuse pas des appels à la violence, etc. Mais il y a une émotion qui existe. Après, la justice a rendu sa décision. Elle a, la permission de sortie n'a pas été accordée. Il y a une décision qui a été rendue sur un dossier que personne ne connaît dans la presse. On ne sait pas pourquoi la décision a été refusée, si elle aurait pu être accordée, etc. Ça, c'était la décision du juge d'application des peines avec la décision de la cour d'appel derrière. Et là-dessus, il n'y a pas de commentaire à faire. Maintenant, ce que je vous disais tout à l'heure, on est dans une société de l'image immédiate. Voilà, ces images ont tourné en permanence hier. Vous avez les politiques qui sont sentis obligés de réagir. Parce que tout le monde les questionne, parce qu'effectivement la population se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Comment se fait-il, par exemple hier, qu'on envoie les policiers sortir manu militari des avocats du tribunal de Lille,
alors
que dans le même temps, on laisse 50 personnes de la communauté des gens du voyage balancer des voitures sur les SNCF et mettre le feu. Mais ça peut s'expliquer techniquement parce que
vous l'avez.
Il y a une réalité qui existe, opérationnelle, qu'on peut difficilement expliquer aux gens. C'est-à-dire, moi, j'ai eu le cas, effectivement, vous voyez, de dossiers où les gens, on les suivait pour des cambriolages et on les a interpellés après une série de cambriolages, parce que pour que ça tienne judiciairement, qu'on puisse interpeller et condamner les gens à de la prison, il fallait, entre guillemets, les laisser faire pour pouvoir les serrer derrière.
Voilà, bien sûr.
Voilà,
ouais.
C'est des choses qui existent.
Maintenant, quand même, alors Charles Prats nous a très bien expliqué le cas de Moiran, mais au-delà de ça, est-ce que parfois, en effet, le pouvoir n'est pas un petit peu déconnecté, le flou du pouvoir sur le dossier France, quand François Hollande avant-hier dit « nous pouvons éviter les licenciements », la semaine dernière, le Premier ministre dit « il faut revoir le plan », mais le même Premier ministre qui avait traité de voyous les fauteurs de troupes, qui était allé au siège d'Air France
Premier
pour défendre la direction.
Le Premier ministre a envoyé son directeur adjoint de cabinet comme DRH d'Air
comme
France,
DRH,
le lendemain des faits.
Très bien. François Hollande, quand il est interpellé par le syndicaliste de la CGT à Saint-Nazaire, bon, qui veut pas lui serrer la main, on a l'impression qu'il ne réagit pas plus que ça. Qu'est-ce que ça dénote aussi, Véronique Jérôme?
Mais je crois que c'est un de ses ministres qui a dit qu'il avait la stratégie du galet. On voit qu'il n'est absolument pas dans l'affect.
C'est Rebsamen qui l'a dit.
Voilà, il n'est pas dans l'affect. Il est plutôt dans la fuite, alors que Nicolas Sarkozy, pour parler de son prédécesseur, parce que finalement, il prend toujours référence sur Nicolas Sarkozy, lui était dans la réaction. Donc, on a différentes façons de voir. Jacques Chirac, qui s'est fait interpeller, qui a eu aussi des soucis, qui s'est fait largement insulter, a répondu « Enchanté, moi, c'est Chirac ». Donc, François Bayrou, lorsque un môme, parce que c'était un adolescent, a essayé de lui faire les poches, je crois que c'était en 2002, une paire de claques. Mais la paire de claques, elle lui a valu des points en plus de popularité. Donc il y a différentes façons de réagir. Je crois que ne pas réagir, c'est peut-être ce qui est pire, semble-t-il.
Et juste un mot, il a mis en péril ses chances de réélection avec tout ce flou autour d'Air France.
C'est un élément de plus, une goutte d'eau supplémentaire. Le problème, c'est qu'on n'est que dans la communication, et là, la communication n'est pas terrible en plus. Donc je pense que ça ne va pas arranger ses affaires. Et de surcroît.
Et les régionales qui arrivent, 5 et 12 décembre.
Voilà, les régionales.
Ce type d'image de Moiran, de l'autoroute 1, ça fait voter pour qui?
Forcément, ça risque de faire voter vers les extrêmes. Mais là encore,
notamment en Picardie.
Le vote pour les extrêmes, ça pourrait être très serré. Enfin, en tout cas, l'électionscope voit les choses assez serrées. Parce que le vote pour les extrêmes, en l'occurrence pour le Front National, pour ne pas le citer, repose quand même sur la situation du chômage. Donc là, il y a quand même un très fort socle qui va intervenir. Et en même temps, pour François Hollande, il y a quand même la difficulté. On la voit bien. Il y a la gauche de la gauche qui n'est pas dans le sécuritaire. Et il y a la gauche, je dirais traditionnelle, qui elle a peut-être tendance à donner une réponse en termes de sécurité. Et donc là, on ne peut pas faire deux réponses en même temps. Avec une seule action, on ne peut pas répondre à deux objectifs en même temps.
Allez, pour terminer, justement, Pascal Pic, Bertrand Martineau, Patrick Fiebus, est-ce que la révolte couve en France? Est-ce que la réponse, quelle réponse apporter? Et est-ce que celle de l'État est la bonne.
Bah, on a besoin des réponses de l'État, des politiques, tous les acteurs sociaux, ça c'est une évidence. Mais il est vrai que l'on souffre depuis quand même pas mal d'années aujourd'hui d'une crise de l'autorité, de l'expression de l'autorité. C'est quelque chose qui n'est plus accepté. Et donc quand on va interpeller un président de la République, on est voté pour lui ou pas, on voit bien que on a une désacralisation du rapport à l'autorité. Dans toute société, quand quelqu'un est élu et porte les symboles symboliques du pouvoir, homme ou femme, il y a toujours une distanciation qui se met en place.
Comment le retrouve ce respect de l'autorité?
Il faut que ça revienne un jour.
Et comment?
Mais il faudra un travail profond des sociologues, des anthropologues, des politiques et également, évidemment, j'en ai oublié, des philosophes. Donc, à partir du moment où déjà à l'école, il y a une difficulté dans la reconnaissance de l'autorité des enseignants ou autres par rapport à cela, comment voulez-vous que dans le reste de la société ça ne se passe pas? C'est pas un discours réactionnaire que je donne, mais une société ne peut pas fonctionner sans symbole, respect des symboles et de l'expression de l'autorité sous les contrôles, évidemment, de tous les acteurs, de la justice et autres, bien sûr.
Patrick Liebus.
On voit ce phénomène de non-respect dans nos entreprises avec l'arrivée des apprentis. Parce que les apprentis, ils voient tout ce qui se passe. Ils voient le comportement de nos politiques. Ils voient la réaction du président de la République sur des sujets. Ils disent, mais pourquoi pas moi? Moi, je suis apprenti, je viens prendre un métier. Avant, il y avait une forme de respect. Moi, j'ai appris mon métier avec un maître d'apprentissage. J'avais une forme de respect profond pour lui. Parce qu'il m'apprenait quelque chose. Maintenant, ils arrivent, ils disent, de toute façon, j'ai tous les droits. Donc, de ce principe, tu n'as rien à me dire, je fais ce que je veux. Ça, c'est un énorme problème. À partir du moment où l'image est négative, celle qu'ils voient en permanence, ils se disent, mais pourquoi pas moi? Donc, c'est le principe de il fait, lui il fait, moi je le fais. Et en plus, les chefs de l'État, s'il fait, moi j'ai le droit de faire.
L'économiste Bertrand Martineau, et on se retrouvera dans un instant avec un autre sujet, la French Tech qui débarque dans les hypermarchés. Rien à voir, mais en effet, voilà, il y a du potentiel justement, ce que disait Pascal Pic. Il y a deux France, hein, celle un peu laissée sur le côté, et puis celle qui réussit. Allez, Bertrand Martineau.
Je pense que cette crise de l'autorité, elle est un peu partout. Elle est entre autres au niveau politique, évidemment. Je crois qu'au-delà du fait qu'il faut avoir des hommes politiques respectables, c'est-à-dire qui soient honnêtes, qui disent à peu près ce qu'ils pensent, qui font à peu près ce qu'ils disent, etc. Ça, c'est le minimum qu'on pourrait attendre. Il y a aussi le fait qu'il faut aussi que, pour que le respect vienne, il faut aussi qu'il y ait quelques réussites concrètes. C'est-à-dire que aujourd'hui, il faudrait au moins quelques victoires rapides. Mmh. C'est-à-dire qu'on connaît les sujets. Il y a, l'éducation nationale, le chômage, le logement, l'immigration, la sécurité. Il faudrait que sur au moins un sujet ou deux, on puisse se dire, au bout de 4-5 ans, de toute évidence, de manière assez objective, on a fait un progrès. Et là, je pense qu'en termes de respect, non pas simplement des personnes, mais de l'action politique, on aurait fait un grand pas.
Merci, c'était passionnant, très intéressant. Patrick Liebus était avec nous, président de la CAPEB et les artisans du bâtiment. Le magistrat Charles Prats, qui revient régulièrement vous voir. Pascal Pic, auteur du retour de Madame Néandertal. Comment être sapiens? Il est paléo-anthropologue au Collège de France. Véronique Jérôme, politoéconomiste, dirigeante d'Electionscope, et puis Bertrand Martineau, John Law, le magicien de la dette. Bonne soirée. Dans un instant, avec nous, l'un des dirigeants de Boulanger, rien à voir avec Pascal Pic, ce sera Monsieur Broche qui sera avec nous, voyez, donc un peu cousin, bien sûr. Et puis Frédéric Simotel, à tout de suite, bonne soirée.
Les décodeurs de l'écho sur BFM Business.